Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc en ce début de semaine dans nos lectures en liberté pour la suite du texte de Charles Juliette. Lambeau. Lorsque tu dois admettre que tu attends à nouveau un enfant, alors que ta petite fille n'a que 3 mois, tu restes des jours à broyer du noir. Tu penses à te faire avorter, mais tu ne connais pas de faiseuse d'anges. De surcroît, cette idée d'attenter à la vie heurte en toi trop de choses pour que tu ne la rejettes pas avec vigueur. Un jour, un incident te donne à espérer que tout se résoudra sans que tu aies à intervenir. Tu es à la fontaine, avec tes 2 seaux, alors qu'un troupeau s'approche. Soudain, sans que rien l'ait laissé pressentir, le taureau te fonce dessus et cherche à t'encorner. Tu ne dois avoir la vie sauf qu'à ton chien qui le mord au museau et le fait fuir, mais tu as roulé à terre et connu une terrible peur. Après coup, tu aurais voulu que cette frayeur ait eu pour effet de te délivrer de ce germe de vie que tu portes en toi, mais que tout ton être refuse. Tu redoutes cet accouchement dont tu prévois que, comme les autres, il sera suivi par des jours de dépression et de profonds bouleversements. Souffrance du corps qui se vide et doit retrouver un autre équilibre. Irruption d'un petit être dont tu es désormais totalement responsable. Obsédante question sur la vie et sur la mort, ressurgissement de l'enfance, de blessures secrètes, de drames oubliés. Modification des rapports à la mère, au père, au mari. Fardeau de cette nouvelle charge alors que les 3 autres enfants sont encore en bas âge, fatigue. Épuisement. Épuisement qui te persuade que tu as tort de donner la vie, puisque toute existence est peur, solitude, souffrance, attente vaine et pour finir, enfouissement dans la fosse. 3 semaines après la naissance de ce garçon, la neige tombe en abondance et l'hiver s'installe, qui durera 6 mois. À nouveau le brouillard, le froid. Les embarras causés par la neige, la cuisine impossible à chauffer, la glace sur les vitres du matin au soir, le silence, la solitude et ces 4 enfants qui sont toujours à demander ce que tu ne peux plus donner. Tu sais le besoin qu'ils ont de toi et tu voudrais te montrer plus attentive, mieux t'occuper d'eux, les cajoler davantage. Mais tu n'en as pas la force. Tu te caches pour pleurer. Un combat se livre en toi où agonise le peu d'énergie qu'il te reste. Ta force de vie faiblissante subit les assauts d'une force contraire qui te tire vers le bas, t'invite à tout lâcher, à disparaître. Poussé en un point limite où tu vacilles. Continuer à mener cette existence où tout n'est que contrainte, effort, affliction, ou bien céder à l'appel du repos, du sommeil. La veille de la Toussaint, alors que ton dernier né vient d'avoir 1 mois, tu invoques un quelconque prétexte pour demander à ta voisine de garder tes 4 enfants chez elle pendant 1 heure. Tu reviens dans ta cuisine et places des bûches sur celles qui brûlent dans la cheminée, déterminée à ce que rien ne reste de ce à quoi tu tiens. Tu jettes au feu ta Bible et tes cahiers, puis tu t'assois. Et bien calé entre le mur et la table dans un grand calme, tu effectues rapidement ce qui doit être fait. Il s'en est fallu de quelques secondes, Martine a surgi, et alors que tu étais inconsciente, a pu arrêter l'hémorragie, puis avec la ceinture de son tablier, te poser un garrot. Après quoi, elle a couru chercher du secours. Par la suite, elle a expliqué qu'elle avait éprouvé un sentiment étrange, senti que tu étais en danger. Elle avait abandonné ce qu'elle était en train de faire et sur le champ s'était précipitée chez toi. Le lendemain de la Toussaint, tu entres à l'hôpital de B, celui où sont admis les déprimés et les malades mentaux du département. Avant que tu ne rencontres un médecin, on te retire ton alliance, tes vêtements, on te tond et on te remet des sabots ainsi qu'une robe de drap brun informe au dos de laquelle sont imprimées à l'encre noire les deux grandes lettres HP. On te pousse dans une salle sombre et nauséabonde où vont et viennent une vingtaine de malades. Tu te retournes pour t'enfuir, mais la porte claque. L'horreur. Comme jeté au fond d'une fosse. Une fosse où croupissent des démolis, des effondrés, les crucifiés de l'interminable souffrance. Quand tu pénètres dans le bureau du médecin, il est assis et regarde par la fenêtre. Tu lis dans ses yeux qu'il s'ennuie. Et tu imagines très vite ce qu'il doit penser de toi. C'est un homme grand, massif, joufflu, ventru, et tu te dis « C'est un repu, il ne peut rien comprendre. » Tu es encore sous le choc d'avoir été tondu, dépossédé de ton alliance, tes vêtements, placé parmi des malades lourdement atteints qui t'effraient, et à ton désespoir se mêle une profonde révolte. Tu détestes cet homme. Est convaincu qu'il ne servira à rien de lui parler, et quand il t'interroge, qu'il t'invite à lui raconter ton histoire, tu plantes tes yeux dans les siens et avec fermeté déclare que tu n'as rien à dire. T'enferme dans un mutisme dont il est impuissant à te tirer. À cette époque, les hôpitaux psychiatriques sont moins des hôpitaux que des prisons. Les médecins sont ignorants des rouages de la psyché et n'ont pas à leur disposition des médicaments qui leur permettraient de sensiblement améliorer l'état des malades. En l'absence de tout traitement, ceux-ci sont purement et simplement séquestrés. Et leur séjour dans ces établissements ne fait qu'aggraver leur état. Aussi est-il admis que ceux et celles qui y entrent ont peu de chances d'en sortir. Grilles, barreaux, lourdes portes verrouillées, les gémissements, les cris, les hurlements des camisolés. Certains n'ont même pas un lit et croupissent sur de la paille. Le grondement sourd des sabots engendrés par les va-et-vient de certaines agitées qui ne cessent de marcher, allant sans fin d'un mur à l'autre. Tassé sur ton lit, tes bras en serrant tes jambes, le menton appuyé sur un genou, tu t'es muré en toi-même et tu pleures. Tu te hais de t'être laissé acculer à cette situation sans issue. La première fois qu'Antoine te rend visite, il hésite à te reconnaître et l'effroi que tu lis dans ses yeux accroît sa détresse et ton désarroi. Ces mots lus naguère dans la Bible déferlent soudain dans ta tête. Faisant dévier mes chemins, il m'a déchiré et il a fait de moi une horreur. Tu n'as rien à reprocher à Antoine. Et alors que ces mots ancrent en toi ce qu'ils disent, ce n'est pas à lui que tu songes, mais à ce mauvais destin qui, sans que tu t'en sois rendu compte, t'a poussé sur ce chemin dont tu pressens qu'il ne peut conduire qu'à la mort. Déchiré, oui, à jamais fissuré, à jamais exclu de la vie, à jamais embourbé dans une souffrance qui a pourri jusqu'à la pulpe de ton âme. Tu demandes des nouvelles des enfants auxquels tu ne cesses de penser. Différentes familles du village les ont recueillis, mais ils n'y resteront que le temps de trouver où les placer. Sans argent, il ne peut être question toutefois de les faire admettre dans des internats. Que surtout, elle ne s'inquiète pas, tout va s'arranger. Autre urgence, il faut qu'il intervienne pour que tu sortes. Chaque jour que tu passes dans cet hôpital ne fait que t'enfoncer davantage. Il doit savoir que tu as toutes tes facultés. Tu étais simplement épuisé, déprimé. Il suffirait que tu te reposes, que tu puisses te ressaisir. Et tes forces restaurées, tu pourrais à nouveau reprendre ta place, t'occuper de lui et des enfants. Tu expliques, insistes, il importe qu'il comprenne. Un être équilibré en pleine santé, s'il devait vivre parmi ses malades, endurer pareilles conditions, il perdrait pied, ne pourrait éviter d'être très vite démoli. Alors, toi qui es momentanément diminué, où trouverais-tu la force de résister, de n'être pas détruite ? Si tu ne quittes pas cet hôpital au plus vite, il est à craindre que tu ne puisses jamais remonter la pente et que tu en viennes à perdre la raison. Les surveillants et les surveillantes sont des êtres frustres, ignorants, brutaux, qui vous traitent sans ménagement. Lors des repas, pour simplifier le service, il arrive qu'il mêle dans votre gamelle, par exemple, de la viande en sauce et de la confiture. De toute manière, la nourriture qui vous est servie est infecte. Tu as d'ailleurs perdu l'appétit. Et au terme du premier mois, maigri de plusieurs kilos.
Construis dans ta tête une ville. Dans la chaude torpeur d'un été, les robes de coton des filles, leurs tresses nattées de fleurs coupées. En riant, elle fuit les garçons, des jardins viennent des flonflons. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Le soir aux terrasses, le vin brille, la nuit prend toute sérénité. Elle fait lever une rumeur, berce les cœurs, marque les heures. Dans les cheveux blonds d'une fille, la main qui caresse et s'arrête. On se dit non, c'est impossible. Et pourtant oui, ça vient, c'est là. C'est gros, c'est noir, ça hurle, ça crache. C'est chenillé, armé, blindé. C'est surmonté d'un fort canon et de plusieurs gueules casquées. Ferme les yeux et vois la ville au matin blême et réprimé. Le sang qui passe du rouge au noir, séchant sur les rues labourées. Maisons éventrées et fumantes, stupeur, colère, haine cachée. Ferme les yeux, entends la ville, d'abord elle pleure puis se reprend. Et s'interroge pourquoi, comment, qu'avons-nous fait, pourquoi ce viol. Et qui sont-ils tous ces truands, injures pavées, arbres coupés. Les gars, les filles, les vieux, les jeunes font une ronde qui rend fou tous les guignols à cheveux ras qui ne comprennent vraiment pas. Le monde entier, d'abord crédule, en reste assis sur son petit cul. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Les Cosaques ont été défaits. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Faut jamais se réjouir trop tôt, les Cosaques reviendront bientôt. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié.
Lecture en liberté, Denis Flageul.
Charles Juliette, Lambeau. Rolande et son mari viennent te voir, mais ils repartent effrayés et ne reviendront plus. Ils habitent loin, n'ont pas de voiture, sont pris par leur travail, et ils mettent ces raisons en avant pour se prouver à eux-mêmes qu'il ne leur est absolument pas possible de renouveler leur visite. Cependant, tous les 15 jours, Rolande t'écrit une petite lettre. Bien qu'elle répète chaque fois la même chose avec les mêmes mots, ces lettres te sont précieuses et tu les portes constamment sur toi. Toutefois, tu n'as pas pu ne pas remarquer qu'elles sont chaque fois postées dans un autre village que celui où elles résident. Tout ce qui touche à la maladie mentale fait peur et les familles qui connaissent le malheur d'avoir un parent interné cherchent à le faire oublier. Car un malade de ce genre fait tache sur la famille. On étend donc sur lui un voile de silence et au fil des ans, on en vient à l'oublier. Pour finir, tout se passe comme s'il n'avait jamais existé. Abandonné à son sort, coupé du monde extérieur, il n'a plus rien à quoi se raccrocher et lentement, inéluctablement, il se délabre, sombre, devient ce que dans le vocabulaire du lieu on nomme un chronique. Quand il prend connaissance du cahier dans lequel tu as consigné un peu de ta souffrance, le médecin est frappé par la qualité de ce que tu as écrit. Il te fait appeler, vous parler, et il conclut que tu n'as pas ta place dans cet hôpital. Pour que tu sortes, il ne pose qu'une condition. De retour dans ta famille, il ne faut pas que tu connaisses à nouveau la solitude qui a été une des causes de ta dépression. Si donc il reçoit l'assurance qu'une personne te tiendra compagnie, il signera ton bon de sortie. Tu alertes Antoine, et quand il vient te voir, tu le presses de se mettre en quête de quelqu'un qui t'aidera à t'occuper des enfants et t'évitera d'être toujours seul. La lecture de ton cahier par le médecin a eu un autre effet. Dans cet immense bâtiment, vous, les malades, êtes répartis en 3 services, le service des agités, celui des dangereuses et celui des chroniques, dans lequel tu as été placé à ton arrivée. Et en fonction de ce que tes notes lui ont appris, le médecin t'a donné la permission de faire partie de la petite équipe qui se rend parfois utile aux surveillantes. Cette décision change en partie ta vie et t'aide à te redresser, à reprendre courage. En outre, tu sais très vite te faire apprécier les surveillantes et en conséquence, les rapports que tu avais avec elles s'améliorent. Mais les semaines passent. Mais Antoine, qui n'est pas des plus dynamiques, n'a toujours pas trouvé la personne qui pourrait chaque jour passer quelques heures auprès de toi et permettrait que tu quittes ce sinistre hôpital. De jour en jour, ton impatience grandit, s'exacerbe et tu supportes de plus en plus mal l'existence à laquelle tu es assujetti. Quand vas-tu retrouver ta maison, tes enfants, ton chien. Et ces chemins sur lesquels tu peux à loisir dialoguer avec toi-même. Tu vis avec cette obsession tendue vers cet instant où tu seras à nouveau libre. Ce matin-là, tu es autorisé à te rendre dans une petite cour pour y jeter des détritus. Deux hommes du pavillon voisin sont occupés à peindre des barreaux. En passant derrière eux, tu te saisis d'un pot de peinture et te précipites à l'intérieur du bâtiment. Tu roules en boule un morceau de papier resté au fond du panier, tu le plonges dans le pot et, cédant à une furieuse impulsion, tu écris avec rage sur un mur, sur la porte des surveillantes, du médecin, en grandes lettres noires dégoulinantes, ces mots qui, depuis des jours, te déchirent la tête. « Je crève. Parlez-moi. Parlez-moi. » Si vous trouviez les mots dont j'ai besoin, vous me délivreriez de ce qui m'étouffe. Tes mains, ta robe, tu ne peux nier. Ils te donnent des chiffons, du savon, de l'eau et t'ordonnent de faire disparaître ce qu'ils nomment des barbouillages. Au lieu de les effacer, tu t'appliques à délayer la peinture et à l'étendre le plus possible. La sanction est immédiate, 10 jours de cellule, 10 jours, sans revoir le jour. Une paillasse. Ta nourriture non pas servie dans une gamelle, mais jetée à même le sol. Quand tu es de retour parmi les chroniques, tu es brisé. Sur ces entrefaites, la guerre a éclaté. Antoine espace ses visites et l'idée de te faire sortir est abandonnée. Une guerre éclair. Et la France ne tarde pas à sentir peser sur elle la botte de l'occupant. Très vite, celui-ci met en place la politique qui va viser à éliminer ceux qui, selon lui, appartiennent à une sous-humanité. Dans cet hôpital où tu te trouves, la mortalité augmente. Chaque matin, en ouvrant les portes, les surveillantes ont un mouvement de recul. Les salles sentent le cadavre. Un de ces matins-là, un jour de juillet, tu viens d'avoir 38 ans. On constate ton décès. Tu es morte de faim. Deuxième partie. Lambeau, Charles-Juliette. Tu es le dernier des 4 enfants. Quand le drame est survenu et que ta mère a été hospitalisée, des voisins t'ont recueilli et gardé quelques semaines. Puis, au début de l'année, ton père t'a confié à monsieur et madame R, des paysans qui vivaient dans un village de la plaine. En plus de la nombreuse famille qu'elle élevait, madame R avait déjà en nourrice 2 petites filles dont la mère avait perdu une jambe lors d'un accident. Écrasée de travail, Madame R avait d'abord refusé de te prendre. Mais lorsque par la suite elle avait appris que tu allais être placé chez une vieille femme qui se saoulait et vivait dans un taudis, elle avait accepté de dépanner ton père, afin de lui laisser le temps de chercher une nourrice acceptable. Lorsqu'enfin il en eut trouvé une et qu'il vint te chercher, Madame R et ses 5 filles ne voulurent pas te laisser partir. Elles s'étaient attachées à ce nourrisson et dirent à ton père qu'elles s'occuperaient de toi comme si tu étais un fils de la famille. Pourtant, le bébé que tu étais aurait dû les excéder et les pousser à refuser de te garder. Car jour et nuit, les épuisant l'une après l'autre, tu ne cessais de pleurer. Tu pleureras tant qu'un muscle de laine se déchira et qu'il fallut opérer d'une hernie. Elles étaient aux petits soins pour toi, elles te nourrissaient comme il convient, te parlaient, te berçaient, te dorlotaient, mais rien ne pouvait apaiser tes pleurs. Ton père ayant oublié de leur indiquer ton prénom, elles choisirent de t'appeler Jean, à l'instar du fils du boucher, un garçon plaisant, sympathique, que tout le village appréciait. T'attribuer son prénom, c'était marquer l'espoir que tu aurais chance de lui ressembler, de recevoir en partage certaines de ses qualités. Ainsi, étais-tu devenu Jean, ou bien Jeannot ? À l'école, quand l'institutrice t'appelait par ton vrai prénom, tu réagissais avec retard, ne comprenant pas qu'on s'adressait à toi. T'habituer à ce nouveau prénom ne te fut pas facile, car ceux qui étaient maintenant ta mère, ton père, tes sœurs, ton frère, continuaient de te donner du Jean et du Jeannot. Devenu plus grand, un jour où tu étais agacé d'avoir à répondre tantôt à un prénom, tantôt à l'autre, tu en vins à conclure que lorsqu'un enfant entrait à l'école, il était sans doute nécessaire qu'il reçoive un nouveau prénom. Si tu t'étais ouvert de ce problème à tes copains ou à des adultes, ils t'auraient certes détrompé. Mais tu n'en fis rien. Et cette bizarre idée s'ancra dans ta tête. Quand tu sors de l'école, tu n'es pas de ceux qui restent à jouer sur la place ou à traîner par les rues. Dès que vous êtes libéré, tu rentres en courant à la ferme. Une peur dévorante t'habite. La peur qu'un jour, à ton retour de l'école, tu trouves la maison vide et que ta mère soit partie, t'ait abandonné. Lorsqu'en arrivant hors d'haleine, tu la vois, tu es soulagé, apaisé, et tu ne la quittes plus. Où qu'elle aille, tu es fourré dans ses jupes et participe par le regard à tout ce qu'elle fait. Voilà donc pour ce soir cette suite du récit de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.